Aventure du baron de Münchhausen par Gottfried August Bürger, 1786. Traduction de Théophile Gautier fils, 1857. Chapitre 2. Histoire de chasse. Je passe sous silence maintes joyeuses scènes dont nous fûmes acteurs ou témoins dans des circonstances analogues, parce que je veux vous raconter différentes histoires cinégétiques beaucoup plus merveilleuses et plus intéressantes que tout cela. Je n'ai pas besoin de vous dire, messieurs, que ma société de prédilection se composait de ces braves compagnons qui savent apprécier le noble plaisir de la chasse. Les circonstances qui entourèrent toutes mes aventures, le bonheur qui guida tous mes coups, resteront parmi les plus beaux souvenirs de ma vie. Un matin, je vis de la fenêtre de ma chambre à coucher un grand étang, qui se trouvait dans le voisinage, tout couvert de canards sauvages. Décrochant immédiatement mon fusil, je descendis à la hâte l'escalier avec tant de précipitation que je heurtai du visage contre la porte. Je vis 36 chandelles, mais cela ne me fit pas perdre une seconde. J'allais tirer, lorsqu'au moment où j'ajustais, je m'aperçus à mon grand désespoir que le violent coup que je m'étais donné à la figure avait en même temps fait tomber la pierre de mon fusil. Que faire ? Je n'avais pas de temps à perdre. Heureusement, je me rappelais ce que j'avais vu quelques instants auparavant. J'ouvris le bassinet, je dirigeai mon arme dans la direction du gibier et je m'envoyai le poing dans l'un de mes yeux. Ce coup vigoureux en fit sortir un nombre d'étincelles suffisant pour allumer la poudre. Le fusil partit et je tuai 5 couples de canards, 4 sarcelles et 2 poules d'eau. Cela prouve que la présence d'esprit est l'âme des grandes actions. Si elle rend d'inappréciables services aux soldats et aux marins, le chasseur lui doit aussi plus d'un heureux coup. Ainsi, par exemple, je me souviens qu'un jour, je vis sur un lac, au bord duquel m'avait amené une de mes excursions, quelques douzaines de canards sauvages, trop disséminés pour qu'il me fût permis d'espérer en atteindre d'un seul coup un nombre suffisant. Pour comble de malheur, ma dernière charge était dans mon fusil, et j'aurais précisément voulu les rapporter tous, ayant attraité chez moi nombre d'amis et de connaissances. Je me souvins alors que j'avais encore dans ma carnassière un morceau de lard, reste des provisions dont je m'étais muni en partant. J'attachais ce morceau de lard à la laisse de mon chien, que je dédoublais, et dont j'attachais les 4 fils bout à bout. Puis je me blottis dans les joncs du bord, lançai mon appât, et j'eus bientôt la satisfaction de voir un premier canard s'en approcher vivement et l'avaler. Les autres accoururent derrière le premier, et comme l'onctuosité du lard aidant, mon appât eut bientôt traversé le canard dans toute sa longueur. Un second l'avala, puis un troisième, et ainsi de suite. Au bout de quelques instants, mon morceau de lard avait voyagé à travers tous les canards, sans se séparer de sa ficelle. Il les avait enfilés comme des perles. Je revins tout joyeux sur le bord, je me passais 5 ou 6 fois la ficelle autour du corps et sur les épaules, et m'en retournai à la maison. Comme j'avais encore un bon bout de chemin à faire, et que cette quantité de canards m'incommodait singulièrement, je commençais à regretter d'en avoir tant pris. Mais sur ces entrefaites, il survint un événement qui, au premier moment, me causa quelque inquiétude. Les canards étaient encore tous vivants, revenus peu à peu de leur premier étourdissement, ils se mirent à battre de l'aile et à m'enlever en l'air avec eux. Tout autre que moi eût assurément été fort embarrassé, mais moi j'utilisais cette circonstance à mon profit, et me servant des basques de mon habit comme de rames, je me guidais vers ma demeure. Arrivé au-dessus de la maison, lorsqu'il s'agit de parvenir à terre sans rien casser, je tordis successivement le cou à mes canards et je descendis par le tuyau de la cheminée et à la grande stupéfaction de mon cuisinier, je tombai sur le fourneau qui, par bonheur, n'était pas allumé. J'eus une aventure à peu près semblable avec une compagnie de perdreaux. J'étais sorti pour essayer un nouveau fusil et j'avais épuisé ma provision de petits plombs lorsque, contre toute attente, je vis se lever sous mes pieds une compagnie de perdreaux. Le désir d'en voir le soir même figurer quelques-uns sur ma table m'inspira un moyen que, sur ma parole, messieurs, je vous conseille d'employer en pareilles circonstances. Dès que j'eus remarqué la place où le gibier s'était abattu, je chargeai rapidement mon arme et j'y glissai en guise de plomb ma baguette, dont je laissai dépasser l'extrémité hors du canon. Je me dirigeai vers les perdreaux, je tirai au moment où ils prenaient leur vol, et à quelques pas de là, ma baguette retomba ornée de 7 pièces, qui durent être fort surprises de se trouver si subitement mises à la broche. Ce qui justifie le proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Une autre fois, je rencontrais dans une des grandes forêts de la Russie un magnifique renard bleu. C'eût été grand dommage de trouer cette précieuse fourrure d'une balle ou d'une décharge de plomb. Maître Renard était tapi derrière un arbre. Je retirai aussitôt la balle du canon et la remplaçai par un bon clou. Je fis feu, et si habilement que la queue du renard se trouva fichée à l'arbre. Alors je m'avançai tranquillement vers lui, je pris mon couteau de chasse et lui fis sur la face une double entaille en forme de croix. Je pris ensuite mon fouet et le chassai si joliment hors de sa peau que c'était plaisir à voir. Le hasard et la chance se chargent souvent de réparer nos fautes. En voici un exemple. Un jour, je vois dans une épaisse forêt une laie et un marcassin qui courent sur moi. Je tire et les manque. Mais voilà le marcassin qui continue sa route et la laie qui s'arrête immobile comme fichée au sol. Je m'approche pour chercher la cause de cette immobilité et je m'aperçois que j'avais affaire à une laie aveugle qui tenait entre ses dents la queue du marcassin, lequel, dans sa piété filiale, lui servait de guide. Ma balle ayant passé entre les deux bêtes avait coupé le fil conducteur dont la vieille laie conservait encore une extrémité. Ne se sentant plus tirée par son guide, elle s'était arrêtée. Je saisis aussitôt ce fragment de queue et je ramenai chez moi, sans peine et sans résistance, la pauvre bête infirme. Si dangereux que soit cet animal, le sanglier est encore plus redoutable et plus féroce. J'en rencontrai un jour un dans une forêt, dans un moment où je n'étais préparé ni à la défense, ni à l'attaque. J'avais à peine eu le temps de me réfugier derrière un arbre que l'animal se jeta sur moi de tout son élan pour me donner un coup de côté. Mais au lieu de m'entrer dans le corps, ses défenses pénétrèrent si profondément dans le tronc qu'il ne put les retirer pour fondre une seconde fois sur moi. « Ah ah !» pensais-je. « À nous deux maintenant !» Je pris une pierre et je cognai de toutes mes forces sur ses défenses, de façon qu'il lui fût absolument impossible de se dégager. Il n'avait qu'à attendre que je décidasse de son sort. J'allais chercher des cordes et un chariot au village voisin et le rapportai fortement garrotté et vivant à la maison. Vous avez assurément entendu parler, messieurs, de Saint-Hubert, le patron des chasseurs et des tireurs, ainsi que du cerf qui lui est apparu dans une forêt, portant la Sainte Croix entre ses corps. Je n'ai jamais manqué de fêter chaque année ce saint en bonne compagnie, et j'ai bien souvent vu son cerf représenté en peinture dans les églises, ainsi que sur la poitrine des chevaliers de l'ordre qui porte son nom. Aussi, en mon âme et conscience, sur mon honneur de brave chasseur, je n'oserais pas nier qu'il n'y ait eu autrefois des cerfs coiffés de croix, et même qu'il n'en existe encore aujourd'hui. Mais sans entrer dans cette discussion, permettez-moi de vous raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux. Un jour que je n'avais plus de plomb, je donnais par un hasard inespéré sur le plus beau cerf du monde. Il s'arrêta et me regarda fixement, comme s'il eût su que ma poire à plomb était vide. Aussitôt, je mis dans mon fusil une charge de poudre, et j'y insinuai une poignée de noyaux de cerises que j'avais aussi vite que possible débarrassé de leur chair. Je lui envoyai le tout sur le front, entre les deux corps. Le coup l'étourdit, il chancela, puis il se remit et disparut. Un ou deux ans après, je repassais dans la même forêt et voilà, ô surprise, que j'aperçois un magnifique cerf portant entre les corps un superbe cerisier, haut de 10 pieds pour le moins. Je me souvins alors de ma première aventure et, considérant l'animal comme une propriété depuis longtemps mienne, d'une balle, je l'étendis à terre de sorte que je gagnais à la fois le rôti et le dessert, car l'arbre était chargé de fruits les meilleurs et les plus délicats que j'eusse mangés de ma vie. Qui peut dire après cela que quelques pieux et passionnés chasseurs, abbés ou évêques, n'aient pas semé de la même façon la croix entre les corps du cerf de Saint-Hubert? Dans les cas extrêmes, un bon chasseur a recours à n'importe quel expédient plutôt que de laisser échapper une belle occasion, et je me suis trouvé moi-même maintes fois obligé de me tirer, par ma seule habileté, des passes les plus périlleuses. Que dites-vous par exemple du cas suivant ? Je me trouvais, à la tombée de la nuit, à bout de munitions dans une forêt de Pologne. Je m'en retournais à la maison lorsqu'un ours énorme, furieux, la gueule ouverte, prêt à me dévorer, me barre le passage. En vain, je cherche dans toutes mes poches de la poudre et du plomb. Je ne trouve rien que deux pierres à fusil que j'ai l'habitude d'emporter par précaution. J'en lance violemment une dans la gueule de l'animal qui pénètre jusqu'au fond de son gosier. Ce traitement n'étant pas du goût du monstre, ma bête fait demi-tour, ce qui me permet de jeter une seconde pierre contre sa porte de derrière. L'expédient réussit admirablement. Non seulement le second silex arriva à son adresse, mais il rencontra le premier. Le choc produisit du feu et l'ours éclata avec une explosion terrible. Je suis sûr qu'un argument a priori lancé ainsi contre un argument a posteriori ferait au moral un effet analogue sur plus d'un savant. Il était écrit que je devais être attaqué par les bêtes les plus terribles et les plus féroces, précisément dans les moments où j'étais le moins en état de leur tenir tête, comme si leur instinct les eût avertis de ma faiblesse. C'est ainsi qu'une fois que je venais de dévisser la pierre de mon fusil pour la raviver, un monstre d'ours s'élance en hurlant vers moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était de me réfugier sur un arbre afin de me préparer à la défense. Malheureusement, en grimpant, je laissais tomber mon couteau et je n'avais plus rien que mes doigts, ce qui était insuffisant pour visser ma pierre. L'ours se dressait au pied de l'arbre et je m'attendais à être dévoré d'un moment à l'autre. J'aurais pu allumer mon amorce en tirant du feu de mes yeux comme je l'avais fait dans une circonstance précédente. Mais cet expédient ne me tentait que médiocrement. Il m'avait occasionné un mal d'yeux dont je n'étais pas encore complètement guéri. Je regardais désespérément mon couteau piqué droit dans la neige, mais tout mon désespoir n'avançait pas les choses d'un cran. Enfin, il me vint une idée aussi heureuse que singulière. Vous savez tous par expérience que le vrai chasseur porte toujours, comme le philosophe, tout son bien avec lui. Quant à moi, ma gibecière est un véritable arsenal qui me fournit des ressources contre toutes les éventualités. J'y fouillais et en tirais d'abord une pelote de ficelle, puis un morceau de fer recourbé, puis une boîte pleine de poids. La poix étant durcie par le froid, je la plaçais contre ma poitrine pour la ramollir. J'attachai ensuite à la corde le morceau de fer que j'enduisis abondamment de poids et le laissai tomber rapidement à terre. Le morceau de fer enduit de poids se fixa au manche de couteau, d'autant plus solidement que la poix, se refroidissant à l'air, formait comme un ciment. Je parvins de la sorte, en manœuvrant avec précaution, à remonter le couteau. À peine avais-je revissé ma pierre que Maître Martin se mit en devoir d'escalader l'arbre. Parbleu, pensais-je, il faut être ours pour choisir si bien son moment. Et je l'accueillis avec une si belle décharge qu'il perdit du coup l'envie de plus jamais monter aux arbres. Une autre fois, je fus serré de si près par un loup que je n'eus pour me défendre d'autres ressources que de lui plonger mon poing dans la gueule. Poussé par l'instinct de ma conservation, je l'enfonçais toujours de plus en plus profondément, de façon que mon bras se trouva engagé jusqu'à l'épaule. Mais que faire après cela? Pensez un peu à ma situation, nez à nez avec un loup. Je vous assure que nous ne nous faisions pas les yeux doux. Si je retirais mon bras, la bête me sautait dessus infailliblement. Je lisais clairement son intention dans son regard flamboyant. Bref, je lui empoignais les entrailles, les tirais à moi, retournais mon loup comme un gant et le laissais mort sur la neige. Je n'aurais assurément pas employé ce procédé à l'égard d'un chien enragé qui me poursuivit un jour dans une ruelle de Saint-Pétersbourg. Cette fois, me dis-je, tu n'as qu'à prendre tes jambes à ton cou. Pour mieux courir, je jetai mon manteau et me réfugiai au plus vite chez moi. J'envoyai ensuite mon domestique chercher mon manteau, qu'il replaça dans l'armoire avec les autres habits. Le lendemain, j'entendis un grand tapage dans la maison, et Jean qui venait vers moi en s'écriant « Au nom du ciel, monsieur le baron, votre manteau est enragé !» Je m'élance aussitôt et je vois tous mes vêtements déchirés et mis en pièces. Le drôle avait dit vrai, mon manteau était enragé. J'arrivais juste au moment où le furibond se ruait sur un bel habit de gala tout neuf et le secouait et le dépeçait de la façon la plus impitoyable.